Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine, Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Présence pour ce rendez-vous quotidien avec les musiciens programmés au Festival de Rocamadour. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Simon-Pierre Bestion, fondateur et directeur artistique de la compagnie La Tempête, qui me fait l'amitié de se prêter au jeu des questions-réponses. Bonjour et bienvenue aussi, Simon-Pierre Bestion, sur cette antenne où j'ai déjà eu le plaisir de vous interviewer lors des éditions précédentes du festival, parce qu'on peut le dire, vous êtes un habitué des lieux maintenant.
Bonjour Eric, oui, merci pour cette invitation à nouveau. Donc en effet, ça fait un certain nombre de fois, puisque ça fait peut-être 5 ou 6 fois à 6 reprises que nous sommes invités par le Festival de Rocamadour. C'est une vraie fidélité. Je remercie d'ailleurs son directeur, Aimeran Rollin, qui nous fait à chaque fois l'honneur de nous laisser une des plus belles places dans le festival, parce que c'est vrai que depuis quelques années maintenant, on se produit dans l'abbatiale de Souillac, et c'est un lieu que j'affectionne particulièrement. Et aussi la joie de retrouver finalement un public fidèle, loyal chaque année, qui aime découvrir les projets de La Tempête et nous suivre à chaque fois avec enthousiasme.
Donc le concert de La Tempête se tient une fois de plus cette année, ce 21 août à 21h à l'abbatiale de Souillac avec le programme Hasard. Nous allons en parler un peu plus tard dans cet entretien. Alors comme vous le disiez, c'est la 5e ou 6e fois que vous vous produisez dans le cadre du festival. Est-ce qu'il y a d'autres événements qui vous témoignent une telle confiance dans la durée depuis autant d'années ?
C'est assez rare, je dois dire. C'est vrai qu'il y a quand même eu... Avant le festival de Rocamadour, dans la même région, d'ailleurs le festival symphonien en Périgord, à Périgueux, avec qui j'ai noué aussi une longue collaboration. Après, il y en a quelques-uns d'autres, mais c'est vrai que cette régularité annuelle, elle est très rare. Souvent, les festivals aiment à changer d'artiste et proposer des nouveautés chaque année. Et là, c'est vrai qu'on est un peu comme une marque repère, si je puis dire ça comme ça, chaque année pour le public. Et on n'est pas boudé, donc je dirais tant mieux pour le public et tant mieux pour nous.
Alors, c'est une confiance réciproque. Hein. En dehors de ces liens d'amitié et de fidélité avec l'équipe du festival depuis 5 ans, il y a d'autres raisons à votre présence ici. D'abord, le soutien du public. Comme vous le disiez, c'est toujours avec beaucoup d'enthousiasme que vous êtes reçu et que vous faites à chaque fois des salles combles. Et puis, il y a les lieux où vous vous produisez. J'ai le sentiment qu'aussi bien la basilique de Rocamadour, où vous avez donné des concerts les premières années, que l'abbatiale de Souillac, où vous maintenant vous vous produisez depuis 2 ou 3 ans, vous inspire tout particulièrement. Est-ce que je me trompe? Et ça, je sais que c'est important pour vous.
Oui, alors particulièrement, c'est vrai que Rocamadour, c'est évidemment un lieu hors norme, hors du commun. Mais la taille de l'abbatiale de Souillac est, je dirais, plus à ma disposition et à adapter à mes envies, finalement, de scène, de son aussi, parce que j'aime vraiment travailler, comme le public le sait, avec ces aspects-là, de la géographie spatiale, de la géographie du son, et l'aspect visuel compte énormément pour moi. Donc c'est vrai que l'abbatiale de Souillac est un terrain de jeu très, très intéressant, en même temps qu'être un lieu magnifique et très inspirant aussi.
Donc il y a la configuration, il y a la surface, il y a la hauteur du bâtiment, il y a son acoustique très particulière. Est-ce que vous avez totale liberté pour la mise en espace de vos concerts à chaque fois que vous vous produisez dans le cadre du festival de Rocamadour ?
Alors je dirais pas j'ai jamais une totale liberté, ça n'existe pas, parce qu'en fait il y a des contraintes énormes qui sont liées au public et il faut recevoir un public, à la sécurité bien sûr et à la jauge, donc il faut quand même, pour que tout le monde rentre dans ses frais, il faut vraiment que le public soit content et dans des bonnes conditions, il faut que j'en prenne énormément part, donc c'est des contraintes non négligeables, mais cependant voilà, je construis les projets avec ces contraintes là et elles sont d'autant plus intéressantes et j'essaie d'occuper tous les espaces disponibles, libres, je pousse un peu les limites de ces espaces parfois. Quand on me les contraint, j'essaie de trouver des façons d'aller un peu plus loin ou de négocier sur certains espaces libres, certains espaces à mettre en lumière. Voilà, c'est un peu un jeu de négociation parfois, mais ça reste toujours évidemment dans l'entente et puis toujours aussi au service du public. Donc j'aime jouer avec les contraintes du lieu qui sont particulières, encore une fois, à Souillac, notamment pour le son qu'il faut apprivoiser.
Donc vous avez donné il y a 2 ans les Vêpres de la Vierge de Monteverdi à l'abbatiale de Souillac et puis l'an dernier au même endroit votre programme Bomba Flamenca. Quel souvenir vous gardez de ces 2 concerts qui avaient, je le rappelle encore une fois, fait salle comble les 2 fois?
C'est vrai que j'ai un souvenir d'un public très 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 chaleureux. C'est étonnant parce que ça tombe dans une période de l'année où il fait très chaud à Rocamadour. Donc on est déjà comme ça dans une sorte un peu d'esprit de fièvre. Je parle des artistes, hein, donc avant, on se réunit toujours à Souillac une veille, ce qui est assez rare aussi sur les lieux de spectacle, et le festival de Rocamadour nous permet ça, donc c'est-à-dire de travailler dans les lieux, de s'habituer à l'acoustique, à l'espace, à la mise en scène que je vais faire et au jeu de lumière. Donc ça, déjà, il y a une sorte de tension qui monte sur 2 journées. Et quand le public arrive, on voit que le lieu est plein à craquer, que chaque espace est rempli au maximum. Ça fait comme une sorte d'adrénaline extraordinaire, oui, pour donner le maximum. Et c'est vraiment ce que je cherche à développer avec la compagnie, qui est un don de soi pour les artistes, qui soit non mesuré, mais plutôt démesuré. Voilà, comme on pourrait trouver dans certains concerts de musique actuelle, de rock, où on sent vraiment une énergie physique qui déborde largement l'aspect uniquement intellectuel de la musique.
En parlant d'acoustique, on sait qu'une salle, lorsqu'elle est vide, et une salle, lorsqu'elle est pleine, eh bien, l'acoustique peut différer. Est-ce qu'il peut y avoir parfois des surprises, entre guillemets, mauvaises, le jour du concert, avec une salle pleine, en l'occurrence une abbatiale pleine ?
En l'occurrence, avec Souillac, on sait très bien que ça ne fait qu'arranger, parce que l'acoustique est tellement délicate, donc elle est très large. Selon où on est placé, elle est plus ou moins bonne. Et donc, en fait, le public vient arranger tout cela et donner une cohérence, en fait, à ce lieu, parce que les corps épongent un peu le son, y compris les vêtements de chaque personne. Donc, ça forme finalement une bonne... En tout cas, j'ai remarqué dès la première fois qu'on s'est produit là-bas que c'était un Souillac particulièrement intéressant quand le lieu est plein. En fonction des lieux, ça change toujours, évidemment. Il peut y avoir des mauvaises surprises aussi, mais là, c'est pas le cas.
Oui, oui. Alors, comme ce concert à Souillac avait rencontré un grand succès auprès du public, et pour se rappeler de bons souvenirs, je vous propose d'écouter un extrait du programme Bomba Flamenca, interprété bien sûr par la compagnie La Tempête. Extrait de Bomba Flamenca, le programme donné l'an passé à l'abbatiale de Souillac par la compagnie La Tempête. Alors, petit rappel à ce sujet, au sujet de ce terme de compagnie. Précision pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, La Tempête n'est ni un ensemble, ni un collectif, c'est bien une compagnie. Et vous tenez beaucoup à ce terme, plutôt utilisé par les troupes de théâtre. En quoi La Tempête est avant tout une compagnie et pas seulement un ensemble instrumental et vocal ?
Alors, pour plusieurs raisons, mais déjà, c'est vrai que vous avez parlé de théâtre, c'est un domaine que j'affectionne particulièrement. Moi-même, depuis 2 ans, je me donne beaucoup dans ce qu'on appelle le théâtre musical. Donc, sans oublier la musique, il y a vraiment une partie de théâtre que j'explore de plus en plus dans des nouveaux projets. Et puis, donc, ce qui définit un peu ça, c'est la façon dont on travaille. C'est sur des plus longues périodes. Il y a ce côté davantage de compagnonnage avec les artistes, c'est-à-dire déjà une fidélité sur les équipes, mais aussi la façon dont je vais les investir au sein du projet, leur demander davantage d'investissement artistique et d'investissement peut-être humain, personnel, pour justement aller chercher des choses qu'on ne trouve pas forcément dans tous les ensembles où ça peut être voilà l'occasion d'un concert et puis le lendemain on est dans un autre ensemble. Là j'ai vraiment envie que les gens se donnent particulièrement dans ce projet-là et qu'ils se sentent libres à la fois d'explorer plus de choses et d'explorer davantage d'eux-mêmes aussi au sein du projet, parce que je pense que ça enrichit le projet de la Tempête d'être très collectif comme ça, avec ce compagnonnage, même si j'en garde la direction artistique. Donc tous ces arguments-là me font penser que le mot compagnie me convient davantage pour le projet de la Tempête, oui.
Bah, il vous convient d'autant mieux que vous êtes en quelque sorte un peu un enfant de Laval, puisque vos parents avaient eux-mêmes une petite compagnie de théâtre musical et de marionnettes.
Tout à fait, oui. Oui, c'est vrai que forcément, ça a influé en moi et ça m'a ouvert une voie. En tout cas, je n'avais pas peur d'y aller puisque ça m'était très familier.
Vous travaillez avec qui pour ce qui relève de l'aspect mise en espace et scénographie pour vos spectacles qui sont, vraiment, j'utilise le terme spectacle parce que ce sont des spectacles plus que des concerts, hein.
Alors pour ce qui est des spectacles que j'appelle moi, on peut dire des concerts augmentés, parce qu'ils sont augmentés d'une mise en lumière, d'une mise en espace, d'une dramaturgie aussi parfois. Je fais la distinction avec les formes de théâtre musical, qui est une autre partie de mon exploration. Mais ces concerts-là, moi je les, la plupart du temps en fait je les produis seul. C'est-à-dire que la scénographie ou la mise en espace, c'est vraiment moi qui la pense, très en lien avec la musique et avec le montage musical, dramaturgique du spectacle. J'essaie de me constituer, de me raconter une histoire qui m'évoque des images, à la fois pour travailler avec les corps dans l'espace, plus comme de la chorégraphie finalement que du théâtre, et pour développer des images scénographiques avec des objets, avec là ce sera encore un autre travail sur hasard. Et puis, il y a souvent une collaboration plus pour le côté lumière avec qui je travaille. Donc là, après avoir travaillé plusieurs années avec Marianne Pelserf, j'ai à partir de cette année une autre collaboration avec Florian Osseda et Florian Delattre, qui sont aussi des compagnons de route depuis un moment en régie lumière et qui, cette fois-ci, m'ont accompagné sur toute la partie création lumière.
Oui, alors je le rappelle aussi, hein, même si on a déjà eu l'occasion d'en parler lors des interviews qu'on a pu faire les années précédentes, chacun de vos concerts augmentés, comme vous dites, est une création à part entière en fonction du lieu où vous vous produisez. Concernant Hasard, dont on va parler là dans quelques minutes, est-ce que vous avez déjà une idée assez précise de ce que vous allez faire à l'abbatiale de Souillac ?
Alors oui, je dirais plus que des créations, il s'agit d'une création, mais plutôt des adaptations. Parce que je peux pas dire qu'à chaque fois je recrée entièrement.
Oui, c'est pas une recréation complète. Oui.
Non, ça serait vraiment trop compliqué, trop impossible finalement. Mais l'adaptation est déjà très très usante. Hein. Finalement, j'adore adapter au lieu, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très fatigant parce que ça demande beaucoup sur l'instant T. Souvent, j'y vais 2 jours avant pour me conditionner dans les lieux, et puis j'ai travaillé en amont sur des plans. Donc oui, par exemple Souillac. Ce soir, ce sera à nouveau une adaptation d'un spectacle qu'on a créé, donc Hasard, à l'abbatiale de l'Essai au début du mois d'août. Et donc forcément, ces deux abbatiales n'ont rien à voir en termes d'espace, d'acoustique, et je suis obligé d'adapter et de créer quelque chose pour l'occasion. Et ça, un peu, les équipes maintenant artistiques sont tout à fait habituées à réagir assez rapidement à ça, donc autant les chanteurs que les instrumentistes sont assez flexibles et intéressés justement aussi à ces adaptations pour se lancer à chaque fois un nouveau défi.
Si je vous demande de définir le répertoire de la Tempête, qu'est-ce que vous pouvez me répondre ? J'ai l'impression qu'il est difficile de le décrire et encore plus de le délimiter, même s'il y a tout de même, il me semble, quelques axes et marqueurs forts dans les programmes que vous proposez.
Bah, ce qui m'est difficile en fait de délimiter, c'est que je pense qu'il évolue en fonction des années et de mes expériences. Je sens parfaitement que j'ai souvent un besoin de me renouveler, d'aller chercher vers des univers nouveaux, donc des répertoires et des époques nouvelles. Avant, au tout début, j'étais très penché dans la musique baroque et en même temps la musique du XXe siècle. Là, dernièrement, j'ai plus été vers les musiques romantiques, mais en même temps les musiques plus anciennes, médiévales. Donc il y a quand même des dénominateurs communs qui sont, je pense, l'aspect du rituel dans la musique, l'aspect sacré, alors pas forcément sacré dans le sens religieux, mais plutôt qui dépasse une sorte d'aspect concret dans la musique, mais plutôt qui va développer un univers sensoriel fort et qui va toucher une profondeur sacrée de l'humain. Donc ça peut être des musiques en effet du répertoire sacré, mais ça peut être aussi pour moi, par exemple, des musiques minimalistes sont particulièrement hypnotiques, très sensorielles dans la façon dont elles sont écrites et développées. Donc C'est très varié. Il n'y a pas de frontière, en tout cas d'époque, mais je m'intéresse vraiment à la façon dont elles mettent en scène un rituel chorégraphique ou sensoriel ou un rituel humain au travers de leur énergie et de... Voilà, peut-être que vous avez une meilleure définition parce que parfois de l'intérieur, on n'est pas assez objectif.
Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a un tropisme aussi vers les musiques extra-européennes d'origine orientale. Ça revient assez souvent aussi. Hein.
Tout à fait, c'est vrai. Oui, aller chercher peut-être dans ses racines un peu lointaines, ou alors parfois pas si lointaines, mais elles nous paraissent lointaines, et des confrontations voilà, avec des répertoires dits classiques. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant, cette mise en relation, d'aller chercher voilà, l'essence, en fait, l'essence des musiques, des racines en profondeur.
Alors, ça nous amène à parler de ce programme Hasard que vous donnez ce soir, le 21 août, à l'abbatiale de Souillac. Le titre, Pour commencer, Hasard, qu'est-ce que ça signifie? C'est de l'arabe, justement.
Hasard, oui, ça vient de l'arabe. Donc, c'est justement ce qui est intéressant, c'est que ça s'est confronté à l'Espagne médiévale. Et donc, l'Espagne, on a fait un mot espagnol, Flor del Azahar, c'est la fleur d'oranger, Azahar. Donc ça évoque à la fois quelque chose de sensoriel, puisqu'on a tout de suite l'image, la couleur, l'odeur de cette fleur. Et en fait, c'est aussi le titre de l'un des cantigas qu'a écrit Mauricio Hanna. Donc j'ai voulu mettre un peu ça en valeur, parce que à la fois, en effet, ça parlait de cette Espagne médiévale arabo-andalouse, et en même temps, c'est le lien avec la musique du XXe siècle et l'inspiration que Mauricio Hanna en a tirée.
Mauricio Hanna, je le précise pour ceux qui ne connaîtraient pas, compositeur français du XXe siècle, né en 1913, mort en 1992. Comment vous l'avez conçu et nourri, ce programme, si je puis dire ?
Alors, c'est un jeu de miroir en deux parties. Chaque partie a son propre jeu de miroir. C'est un peu de l'intériorisation vers l'extériorisation. C'est-à-dire qu'on commence par quelque chose d'assez religieux, d'assez austère même, je dirais. Plutôt français dans le sens flamand presque du terme. À l'époque où les Flandres étaient aussi en France. Et ce côté flamand, on le retrouve dans les musiques de Guillaume de Machaut avec sa messe qui date du XIVe siècle. Première grande messe issue d'un seul et même compositeur à quatre voix, et que j'ai voulu mettre en regard avec la messe de Stravinsky, qui en est fortement inspiré. En tout cas, Stravinsky connaissait très bien la messe de Machaut, et je crois qu'il a cherché à cette époque de sa vie des consonances, une sorte d'austérité qui était à la fois médiévale, mais aussi, c'est pas seulement austère, il y a une sorte de profondeur dans sa musique et de quelque chose de presque architectural, comme la messe de Machaut, qui est extraordinaire dans le dialogue, en tout cas, de ces deux œuvres. Donc ça, c'est en première partie. Évidemment, j'extrais les pièces de chacune des messes et je les invertis ensemble pour pas qu'il y ait seulement une juxtaposition. Et en deuxième partie, il y a quelque chose de beaucoup plus extériorisé, plus populaire, avec les cantigas, qui sont des chants, certes, plutôt religieux, mais qui sont aussi des poèmes religieux, qui sont issus de danses, de rituels sacrés, de pèlerinages. Donc il y a cette idée quand même du mouvement et du peuple, de quelque chose de plus accessible. Les cantigas sont un recueil donc du XIIIe siècle, issu de l'Espagne médiévale, de Alfonso X, le sage, qui était un grand mécène des arts, de la poésie, des musiques. Et les cantigas de Mauricio Hanna viendront faire ce miroir en deuxième partie à ceux de l'époque médiévale. Donc voilà, il y a ce double miroir en première et en deuxième partie, avec une sorte de progression de l'intérieur vers l'extérieur, vers quelque chose de plus en plus exubérant, plus joyeux aussi, plus méridional, parce que ça va aussi avec ça, avec l'utilisation des percussions progressives, voilà.
Et oui, on va faire un écart de 6 à 7 siècles à chaque fois, puisque Machaut, c'est le 14e siècle, Alfonso X, c'est le 13e, et donc Stravinsky et Hanna, c'est le 20e. Avec quel effectif de chanteurs et d'instrumentistes allez-vous vous produire ce soir à Souillac ?
Bah justement, j'ai cherché à avoir une cohérence aussi, pour que ces musiques ne sonnent pas de façon trop éloignée, et qu'il n'y ait pas de choc qui les rendent justement pas associables. C'est-à-dire, dans le même programme, j'ai cherché à avoir des timbres qui se rejoignent très fortement, à la fois dans la façon de chanter ces œuvres, avec des voix plutôt droites, plutôt comme on pourrait utiliser en musique ancienne, plutôt naturelles aussi dans l'émission. Et au niveau des instruments, j'ai choisi beaucoup d'instruments issus à la frontière de l'époque médiévale, renaissance, baroque parfois, Donc ce sont que des instruments à vent, la famille des bassons, la famille des hautbois, la famille des trombones et des cornets à bouquin, qui jouent un peu ces parties pour ce qui est des œuvres du XXe siècle. Ce sont des parties au départ faites pour des instruments modernes, mais que j'ai arrangées pour ces instruments anciens. Et je trouve que ça transforme totalement la matière sonore, qui en devient beaucoup plus organique, plus chaude aussi, plus chaleureuse. Il y a plus de timbre dans ces instruments anciens. Et voilà, on trouve une connexion très forte, du coup, encore plus entre les langages de ces deux époques très disjointes.
Eh bien, pour donner une idée de ce programme Asar à nos auditeurs, voici un extrait des Cantigas de Santa Maria d'Alfonso X le Sage, interprété bien sûr par la compagnie La Tempête. Strella d'Odia, extrait des Cantigas de Santa Maria d'Alfonso X le Sage, interprété par La Tempête. C'est une des pièces du programme Asar que donne la compagnie dirigée par Simon-Pierre Bestion. Ce soir, ce mercredi 21 août à 21h à l'abbatiale de Souillac. Très rapidement, une dernière question avant de conclure cette interview. Quels sont les projets à venir pour votre compagnie? Et là, je pense autant à la conception de nouveaux programmes qu'à des enregistrements, des projets discographiques.
Alors, pour être un peu dans la même lignée, j'ai travaillé sur un projet qui aura lieu en 2025, au mois de mai, une création autour du personnage de la Sibylle et des Sibylles, ce personnage féminin qui date de l'Antiquité, mais qui tient jusqu'à encore à aujourd'hui, comme un personnage mythologique, très spirituel. Donc, dans tout le bassin de la Méditerranée, on le retrouve dans les cultures grecques, turques, égyptiennes, mais aussi en Europe. Donc ça va réunir beaucoup de musiques différentes et ça aura une forme de théâtre musical, là pour le coup, avec une vraie mise en scène et une scénographie. Et puis sinon, à la fin de l'année 2024, nous sortirons un album dédié à la musique de Roland de Lassus, que j'appelle Orlando. C'est un portrait que j'ai appelé un Melancholic Portrait sur Orlando di Lasso, avec beaucoup de surprises parce qu'on ne le joue pas seulement dans l'esthétique de son époque, mais j'ai arrangé beaucoup les musiques pour en faire parfois des arrangements très étonnants avec de la batterie, des synthétiseurs, des saxophones, viol de gambe et aux voix. Voilà, ça va faire un mélange surprenant et je crois que ça sortira au mois de novembre pour le label Alpha.
Et voilà, encore beaucoup de projets, mais lorsqu'on vous connaît, on sait à quel point vous êtes inventif et créatif. Un grand merci, Simon-Pierre Bestion, de vous être prêté au jeu de l'interview. Je rappelle donc que la compagnie La Tempête donne son programme Asar ce mercredi 21 août à 21h à l'abbatiale de Souillac. Les places sont à acheter et réservées en ligne sur le site www.rockamadurfestival.com. S'il en reste, il faut vraiment se précipiter parce qu'il ne doit pas en rester beaucoup. Pour ma part, je donne rendez-vous aux auditeurs de Radio Présence demain à 13h30 pour pour un entretien avec un autre musicien programmé lors de ce festival 2024. Merci de votre fidélité et très bon après-midi à tous.